Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. La dernière fois, nous avons commencé à relire le Décalogue pour sentir comment ce Christ qui vit en nous nous fait vivre une relation nouvelle avec le Père, connecté par l'Esprit Saint à la vie divine. Le Seigneur a sa place centrale dans notre vie, non pas comme un carcan, mais comme une fondation qui assure notre stabilité et un souffle qui permet de tout construire dans l'ordre à l'endroit. Après la première table de la loi qui concerne la relation à Dieu, nous passons à la seconde table qui concerne la relation aux hommes, les commandements numéro 4 à 10. Le quatrième commandement, « Honore ton père et ta mère », constitue en fait l'articulation des deux tables. Il indique l'ordre de l'amour, de la charité. Dieu a voulu qu'après lui, nous honorions nos parents, à qui nous devons la vie et qui nous ont transmis la connaissance de Dieu. Plus largement, nous sommes tenus d'honorer et de respecter tout ce que Dieu, pour notre bien, a revêtu d'une autorité. Le quatrième commandement s'adresse expressément aux enfants dans leur relation avec leur père et mère, parce que cette relation est la plus universelle, elle concerne tout le monde. Ce commandement concerne également les rapports de parenté avec les membres du groupe familial, plus largement. Il demande de rendre honneur, affection et reconnaissance aux aïeux et aux ancêtres. Nous accueillons en tout cela l'exemple même de l'enfant Jésus qui s'est soumis à Joseph et à Marie. L'observation de ce commandement comporte sa récompense. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Le respect de ce commandement procure, avec les fruits spirituels, aussi des fruits temporels, des fruits de paix et de prospérité. Au contraire, l'inobservance de ce commandement entraîne de grands dommages pour les personnes et pour les communautés humaines. Le respect filial se révèle par la docilité et l'obéissance véritable. En grandissant, les enfants continuent à respecter leurs parents. Ils préviendront leurs désirs, sollicitent volontiers leurs conseils. L'obéissance envers les parents cesse avec l'émancipation des enfants, bien sûr, mais le respect continue, ce respect qui reste dû à jamais. Celui-ci trouve sa racine dans la crainte de Dieu et dans la piété, ses dons du Saint-Esprit. Le quatrième commandement rappelle aux enfants devenus grands leur responsabilité envers les parents. Autant qu'ils le peuvent, ils doivent leur donner l'aide matérielle et morale dans les années de vieillesse et durant le temps de maladie, de solitude ou de détresse. Pour les chrétiens, une spéciale gratitude est due à ceux dont ils ont reçu la foi. Donc ils ont reçu la grâce du baptême et la vie dans l'Église. Alors, il peut s'agir des parents, mais aussi d'autres membres de la famille, des grands-parents, des prêtres, des catéchistes, d'autres maîtres ou amis. Le quatrième commandement de Dieu nous ordonne aussi d'honorer tous ceux qui ont reçu de Dieu une autorité dans la société. Ce commandement éclaire les devoirs de ceux qui exercent l'autorité, mais aussi ceux à qui elle bénéficie. Elle veut éclairer ainsi toutes les relations entre les employés et employeurs, entre subordonnés et chefs, entre les citoyens et la patrie. Ceux qui exercent une autorité doivent l'exercer comme un service à l'image du Christ. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, nous disait Jésus. Ceux qui sont soumis à une autorité regardent leur supérieur comme représentant de Dieu qui les a institués ministres de ses dons. Saint Pierre nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute institution humaine. Agissez en homme libre, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteur de Dieu. » La collaboration loyale que nous essayons d'exercer comporte quand même le droit d'exercer une juste remontrance quand c'est nécessaire sur ce qui peut paraître nuisible à la dignité des personnes et au bien de la communauté. Le devoir des citoyens est de contribuer avec les pouvoirs civils au bien de la société dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité et de liberté. L'amour et le service de la patrie relèvent de ce devoir de reconnaissance et de l'ordre de la charité. La soumission aux autorités légitimes et le service du bien commun exigent de tous les citoyens qu'ils accomplissent leur rôle dans la vie de la communauté politique. L'apôtre Paul nous invite à faire des prières et des actions de grâce pour les rois, c'est-à-dire pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. L'obéissance n'est cependant jamais aveugle. Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Ce refus d'obéissance aux autorités civiles trouve une justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté humaine. Jésus nous dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Les apôtres témoignent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette situation peut arriver. Il est permis de défendre leurs droits et ceux de leurs concitoyens contre les abus du pouvoir en respectant les limites tracées par la loi naturelle et la loi de l'Évangile. En tant que chrétiens, nous voulons donc intégrer tous les liens d'obéissance et de dépendance mutuelle dans l'esprit de piété filiale que nous avons reçu. Car dans tous ces liens, Dieu veut faire sentir sa paternité et faire épanouir l'esprit de famille qu'il veut étendre à tout l'univers. Cela demande aussi beaucoup de vigilance et de courage face à la tentation du pouvoir qui ressurgit spontanément dans toutes les institutions humaines, civiles et religieuses. Le cinquième commandement concerne le respect de la vie humaine. Tu ne commettras pas de meurtre. La vie humaine est sacrée parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et elle demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur qui est son but, sa fin. L'Écriture précise cet interdit du cinquième commandement. Tu ne tueras pas l'innocent ni le juste. Le meurtre volontaire d'un innocent est gravement contraire à la dignité de l'être humain, à la règle d'or et à la sainteté du Créateur. Dans le sermon sur la montagne, Jésus rappelle ce précepte « Tu ne tueras pas » et il ajoute encore l'interdiction de la colère, de la haine et de la vengeance. Davantage encore, le Christ demande à son disciple de tendre l'autre joue, d'aimer ses ennemis. Lui-même ne s'est pas défendu et a dit à Pierre de laisser l'épée au fourreau. Alors cet exemple du Christ ne supprime pas le concept de légitime défense, nous en avons déjà parlé. Car l'amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la vie morale. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Celui qui défend sa vie n'est pas coupable d'homicide, même s'il est contraint de porter à un agresseur un coup mortel. On est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu'à celle d'autrui. En plus d'un droit, la légitime défense peut être un devoir grave pour une personne qui est responsable de la vie d'autrui. La défense du bien commun exige que l'on mette parfois l'injuste agresseur hors d'état de nuire. À ce titre, les détenteurs légitimes de l'autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiés à leur responsabilité. La vie humaine, de manière individuelle, doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès ce premier moment de son existence, l'être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie. L'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables, l'Église le répète sans cesse. Ceux dont la vie est diminuée ou affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que possible. Quels qu'en soient les motifs et les moyens, l'euthanasie, qui consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes, est toujours injustifiable. Bien différent et parfois légitime est le refus de l'acharnement thérapeutique. On ne veut pas par là donner la mort, mais on accepte de ne pas pouvoir l'empêcher. On cesse alors certaines procédures médicales disproportionnées avec les résultats attendus. Chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui la lui a donnée. C'est Dieu qui en reste le maître. Nous sommes les intendants et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Nous n'en disposons pas. Le suicide contredit l'inclination normale de l'être humain à conserver sa vie. Nous en avons déjà un peu parlé. Ce suicide est gravement contraire à l'amour de soi. Il offense également l'amour du prochain, parce qu'il brise injustement tous les liens de solidarité avec les sociétés familiales, nationales et humaines, à l'égard desquelles nous avons des obligations. Nous avons bien sûr déjà dit aussi qu'il y a parfois des troubles psychiques, des angoisses, des souffrances, qui peuvent parfois diminuer la responsabilité des personnes suicidaires, mais c'est toujours un mal. La vie et la santé sont des biens précieux confiés par Dieu. Nous avons à en prendre soin raisonnablement, en tenant compte des nécessités d'autrui et du bien commun. Si la morale appelle au respect de la vie corporelle, elle ne fait pas de celle-ci une valeur absolue. Elle s'insurge contre une conception néo-païenne qui tend à promouvoir le culte du corps, à tout lui sacrifier, à idolâtrer la perfection physique. En revanche, il s'agit d'exercer la prudence et la tempérance par rapport à tout ce qui peut avoir un impact négatif sur la vie, sur la santé de notre corps. C'est pour cela qu'il faut éviter toutes les sortes d'excès. L'abus de la table, l'abus de l'alcool, du tabac, des médicaments. L'usage de la drogue inflige de graves destructions à la santé aussi. Ce respect de la vie humaine s'étend aussi à la dimension morale de la vie. Ce n'est pas que la vie physique. Il faut respecter l'âme d'autrui. Le scandale, c'est l'attitude ou le comportement qui porte autrui à faire le mal. Celui qui scandalise se fait le tentateur de son prochain. Il peut entraîner son frère dans la mort spirituelle. Le scandale revêt une gravité particulière quand ceux qui le causent ont une autorité spéciale. Ce scandale a inspiré à Jésus une malédiction, il faut l'entendre. Celui qui scandalise un de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on le précipite dans la mer avec une pierre au cou. En rappelant le précepte « Tu ne tueras pas », Jésus demande donc la paix du cœur et la paix entre les personnes, et il dénonce l'immoralité de la colère et de la haine. Sur ces bases seulement, une société humaine peut se construire dans une fraternité qui est préparation à la communion éternelle. Le sixième commandement est rappelé par Jésus aussi, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Nous avons souvent parlé du mystère d'amour qu'est Dieu, de la dignité de l'homme créé à son image, mais aussi de la vocation naturelle de l'homme et de la femme au mariage, comme chemin premier de l'amour dans l'ordre de la nature ici-bas. La tradition de l'Église a entendu ce sixième commandement comme englobant l'ensemble de la sexualité humaine, appelée à vivre dans la chasteté d'un amour vrai. La sexualité affecte tous les aspects de la personne humaine, dans l'unité de son corps et de son âme. Elle concerne particulièrement l'affectivité, la capacité d'aimer et de procréer, et d'une manière plus générale, l'aptitude à nouer des liens de communion avec autrui. Il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d'accepter son identité sexuelle telle qu'elle lui est donnée par Dieu. La différence et la complémentarité physique, morale et spirituelle entre l'homme et la femme sont orientées vers les biens du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. Chacun des deux sexes est avec une égale dignité, même si c'est de manière différente, une image de la puissance et de la tendresse de Dieu. La chasteté à laquelle tous sont appelés signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. Cette unification de la vie affective est fondamentale pour chacun. Cette chasteté nous concerne tous, quel que soit notre état de vie. La sexualité devient personnelle et vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier et illimité de l'homme et de la femme. Elle prend sens dans le mariage, comme nous l'avons dit. La chasteté qui concerne tout homme, toute femme, elle comporte deux dimensions, cette dimension de l'intégrité de la personne qui se réalise dans la chasteté et l'intégralité du don qu'elle permet. La personne chaste maintient l'intégrité des forces de vie et d'amour déposées en elle. Cette intégrité assure l'unité de la personne. Elle s'oppose à tout comportement qui la blesserait. Elle ne tolère ni la double vie, ni le double langage. La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine, mais aussi un fruit de l'Esprit Saint. Saint Augustin nous dit « La chasteté nous recompose, elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant. » Il y a bien des tendances de la chair qui blessent la chasteté autour du péché de luxure, des désirs désordonnés ou une jouissance déréglée du plaisir sexuel. Ce plaisir est moralement désordonné quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de la vraie sexualité humaine, qui est la procréation et l'union dans la communion du mariage. Contre tous les pièges du péché, la maîtrise de soi est une œuvre de longue haleine. Elle suppose un effort repris à tous les âges de la vie. La chasteté tient des efforts de l'homme, elle est une vertu, mais elle est aussi un don de Dieu, une grâce, un fruit de l'œuvre spirituelle. Le Saint-Esprit nous donne d'imiter la pureté du Christ, il la réalise en nous. La chasteté apparaît comme une école de don de la personne. La maîtrise de soi a pour but le don de soi. La chasteté conduit celui qui la pratique à devenir auprès du prochain un témoin de la fidélité et de la tendresse de Dieu. La vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié. Elle indique aux disciples comment suivre et imiter Jésus, celui qui a fait de nous ses propres amis. Jésus qui s'est donné totalement à nous et nous fait participer à sa condition divine. Développée entre personnes de même sexe ou de sexe différent, l'amitié représente un grand bien pour tous. Elle conduit à une communion spirituelle. Tous les fidèles du Christ sont appelés à mener une vie chaste selon leur état de vie particulier. La chasteté doit qualifier les personnes suivant leurs différents états de vie. Les unes dans le célibat consacré, manière éminente de se livrer plus facilement à Dieu d'un cœur sans partage. Les autres, de la façon que détermine la loi selon qu'elles sont mariées ou célibataires. Les personnes mariées sont appelées à vivre la chasteté conjugale, qui signifie la vérité du don de soi dans la communion totale entre les conjoints. Les personnes seules, célibataires, pratiquent la chasteté dans la continence. Le péché s'attaque également à la vérité du don de soi qui se réalise dans le mariage. L'union charnelle, en dehors du mariage entre un homme et une femme, ce qu'on appelle la fornication, est toujours un désordre, une incohérence, comme nous l'avons déjà souligné. Car l'expression sexuelle de l'amour est ce qui caractérise le lien du mariage. Ils deviennent une seule chair. La sainteté du mariage est également mise à l'épreuve par le péché d'adultère, le péché d'inceste, toutes ces relations faussées qui blessent les personnes et la vérité de leurs relations entre elles, devant Dieu et devant les hommes. En s'appuyant sur les Écritures, la tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont des dépravations graves, nous l'avons déjà évoqué aussi. Ces actes ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Les personnes qui ont des attirances homosexuelles, comme tous les chrétiens, sont appelées à la chasteté. Par la maîtrise de soi, par le soutien d'amitié désintéressée, par la prière et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument de la perfection chrétienne. La sexualité est ordonnée à l'amour conjugal de l'homme et de la femme. Dans le mariage, l'intimité corporelle des époux devient un signe et un gage de communion spirituelle. La sexualité par laquelle l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre par les actes exclusifs des époux, n'est pas quelque chose de purement biologique, mais concerne la personne humaine dans ce qu'elle a de plus intime. Elle ne se réalise de façon véritablement humaine que si elle est partie intégrante de l'amour dans lequel l'homme et la femme s'engagent entièrement l'un vis-à-vis de l'autre jusqu'à la mort. La fidélité des époux peut bien sûr être blessée, mais aussi la fécondité. L'Église, qui prend toujours parti pour la vie, enseigne que tout acte matrimonial doit rester par soi ouvert à la transmission de la vie. C'est un aspect parfois difficile à faire entendre dans notre société, où on veut avoir une maîtrise technique de tout, y compris de la fécondité. Mais pourtant, parmi les jeunes générations, il y a un renouveau de la conscience de l'importance de la nature humaine, du respect de la vérité de la loi naturelle dans toutes les dimensions de la relation conjugale. En unissant notre vie humaine à sa propre vie, le Christ nous rend capables d'entrer dans des liens d'amour vrais, purs, chastes, qui manifestent sa beauté, sa sainteté. L'Esprit Saint intègre mystérieusement les communions humaines dans la grande communion de l'Église, comme autant de joyaux, que ce soit dans l'amour conjugal tout au long de l'histoire humaine, mais aussi et surtout dans l'amour d'amitié qui établit des liens éternels. Le septième commandement nous dit « Tu ne voleras pas ». Ça ne concerne pas les oiseaux, mais cela nous défend de prendre ou de retenir le bien du prochain. Ça nous invite à ne pas faire du tort au prochain en ses biens de quelque manière que ce soit. De manière positive, ce commandement prescrit aussi la justice et la charité dans la gestion des biens terrestres et des fruits du travail des hommes. Les biens de la création sont destinés au genre humain tout entier. Le droit à la propriété privée n'abolit pas la destination universelle des biens. La domination accordée par le Seigneur sur les ressources de l'univers ne peut être séparée du respect des obligations morales, y compris envers les générations à venir. Les animaux sont confiés à la gérance de l'homme qui leur doit bienveillance. Ils peuvent servir à la juste satisfaction des besoins de l'homme. L'Église a longuement exprimé ces dernières années l'attention qu'il faut porter à notre maison commune dans un souci écologique, une écologie intégrale qui inclut toutes les dimensions de la vie. L'homme est lui-même l'auteur, le centre et le but de toute la vie économique et sociale. Le point décisif de la question sociale est que les biens créés par Dieu pour tous arrivent en fait à tous, suivant la justice et avec l'aide de la charité. Ce commandement nous invite à veiller à la dignité du travail de l'homme, à sa juste rémunération. Moyennant son travail, l'homme participe à l'œuvre de la création. Cela fait partie de sa dignité. Le développement véritable est celui de l'homme tout entier. Il s'agit de faire croître la capacité de chaque personne de répondre à sa vocation et donc à l'appel de Dieu. Le mystère de la charité nous invite à aller au-delà de la simple justice. L'aumône faite aux pauvres est un témoignage de charité fraternelle. Dans la multitude d'êtres humains qui sont sans pain, sans toit, sans lieu, nous reconnaissons la présence du Christ qui nous dira au dernier jour « Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dans ce commandement qui concerne les biens de ce monde, l'Esprit Saint nous fait donc sentir l'invitation à faire grandir la charité, la solidarité, dans une conscience toujours plus grande de la beauté de cette interdépendance mutuelle que le Créateur a inscrite dans le monde. Une interdépendance qui reflète une autre interdépendance dans le monde spirituel, celle que nous appelons la communion des saints. Le huitième commandement nous dit « Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Ce commandement nous interdit de travestir la vérité dans les relations avec autrui. De manière positive, il nous invite plus largement à vivre pleinement dans la lumière de la vérité, à vivre en présence de la vérité qui est pour nous une personne, le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La véracité est la vertu qui consiste à se montrer vrai en ses paroles, en ses actes, en se gardant de la duplicité, du mensonge, de la simulation ou de l'hypocrisie. Le respect de la réputation et de l'honneur des personnes interdit toute attitude ou toute parole de médisance ou de calomnie. Toute vérité n'est cependant pas bonne à dire. La règle d'or consiste à discerner dans les situations concrètes s'il convient ou non de révéler toute la vérité à celui qui la demande. Il y a même des choses qui doivent rester secrètes parfois, des secrets professionnels, le secret de la confession en particulier, qui respecte le lien sacré entre Dieu et l'intime de la conscience du fidèle, mais aussi la simple confidentialité dans les relations d'amitié. Les confidences préjudiciables à autrui n'ont pas à être divulguées. Nous sommes dans une société de communication, de surinformation. La société a bien sûr droit à une information fondée sur la vérité, sur la liberté et la justice. Mais il convient de s'imposer modération et discipline dans l'usage des moyens de communication. Pour nous, la vérité est liée à la bonté et à la beauté. En cultivant la vérité du Christ que nous avons reçu, nous voulons témoigner de sa beauté et attirer à lui tous les hommes. Les 9e et 10e commandements sont liés au 6e et au 7e. Ils viennent toucher la racine du désir, cette racine que Jésus veut soigner et guérir par sa grâce. Le 9e commandement, qui répond au 6e, « Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle », nous dit Jésus. Le 9e commandement proscrit la concupiscence charnelle. Alors, la concupiscence, au sens étymologique, elle peut désigner toute forme véhémente de désir humain. Notre théologie chrétienne lui a donné ce sens du mouvement de l'appétit sensible qui va contre la raison humaine. L'apôtre saint Paul identifie cette concupiscence à la révolte que nous sentons entre la chair et l'esprit. C'était la lecture de dimanche dernier. Cette fragilité au plus intime de l'homme est une conséquence du premier péché. Elle dérègle les facultés morales de l'homme, et sans être une faute en elle-même, elle incline l'homme à commettre des péchés. La lutte contre la convoitise charnelle passe par la purification du cœur et la pratique de la tempérance. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les cœurs purs désigne ceux qui ont accordé leur intelligence et leur volonté aux exigences de la sainteté de Dieu, principalement en trois domaines qui vont ensemble. La charité, la chasteté que nous avons évoquée plus tôt, et l'amour de la vérité et de la vérité de la foi. Il existe un lien entre la pureté du cœur, du corps et de la foi. Le baptisé doit toujours lutter contre la concupiscence de la chair et les convoitises désordonnées. Et avec la grâce de Dieu, il y parvient par la vertu et le don de chasteté, car la chasteté permet d'aimer d'un cœur droit et sans partage. par la pureté d'intention qui consiste à viser la fin véritable de l'homme, par la pureté du regard extérieur et intérieur, par la discipline des sentiments et de l'imagination, par le refus de toute complaisance dans des pensées impures qui inclinent à se détourner de la voie des commandements de Dieu, et bien sûr et surtout par la prière. La pureté de cœur et de corps va de pair avec la pudeur. La pudeur préserve l'intimité de la personne. Elle désigne le refus de dévoiler ce qui doit rester caché. Elle est vérité et délicatesse dans le respect mutuel. La pudeur protège le mystère des personnes et de leur amour. Le 10e commandement parle aussi de la concupiscence, il complète le 9e. Il interdit la convoitise des biens d'autrui. Cette racine du vol qu'interdisait le 7e commandement. Ce commandement proscrit l'avidité et le désir d'une appropriation sans mesure des biens terrestres. Il défend la cupidité déréglée qui naît de la passion des richesses, de la puissance. Il interdit aussi le désir de commettre des injustices par lesquelles on nuirait au prochain dans ses biens temporels. Le 10e commandement exige de bannir l'envie du cœur humain. L'envie, ce péché capital, qui peut conduire aux pires méfaits. Cette envie qui est un des péchés premiers, disons que c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. L'envie est en fait une forme de tristesse et donc un refus de la charité. Une tristesse par rapport au bien que possède l'autre. Nous devons donc lutter contre ce mal par la bienveillance. L'envie vient souvent de l'orgueil. Pour l'éviter, nous nous entraînons à vivre dans l'humilité. Le précepte du détachement des richesses est obligatoire pour entrer dans le royaume des cieux. Le Christ l'a bien exprimé à ses disciples. Tous les fidèles du Christ doivent régler comme il faut leur affection pour que l'usage des choses du monde et un attachement aux richesses contraires à l'esprit de pauvreté ne les détournent pas de poursuivre la perfection de la charité. Pour nous libérer de l'inquiétude du lendemain par rapport aux biens matériels, nous avons l'abandon à la providence du Père. La confiance en Dieu nous dispose à vivre cette béatitude des pauvres. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La promesse de voir Dieu dépasse toutes les béatitudes. Dans l'Écriture, voir, c'est posséder. Celui qui voit Dieu a obtenu tous les biens que l'on peut désirer. Il tient à chacun de lutter avec la grâce d'en haut pour obtenir les biens que Dieu promet. Pour posséder et contempler Dieu, les fidèles du Christ mortifient leur convoitise et ils l'emportent avec la grâce de Dieu sur toutes les séductions de la jouissance et de la puissance. Saint Paul nous dit que les fidèles du Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Ils sont conduits par l'Esprit et suivent les désirs de l'Esprit. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons donc sous la conduite de l'Esprit.